En un mot, très simplement, s'il y a un domaine dans lequel la mondialisation n'a pas pénétré, c'est celui des peines judiciaires. Donc, au départ, si vous voulez, pour un juriste de base, c'est une sorte de non-sujet. Et puis, souvent, comme les non-sujets, ils s'avèrent très, très intéressants. Alors, pourquoi la mondialisation, de prime abord, n'a absolument pas pénétré le domaine des peines judiciaires? Ben, il suffit de prendre quelques exemples. En Chine, une personne qui se rend coupable de corruption, eh bien, elle est passible de la peine de mort. En France, la même personne qui se rend coupable des mêmes faits, elle encourt au maximum, ce qui est déjà pas mal, mais enfin, elle encourt au maximum 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Aux États-Unis d'Amérique, vous ne pouvez pas ne pas le savoir, parce que j'imagine que vous regardez des séries télévisées, des films, une personne peut être condamnée à 100 ans, 150 ans, 200 ans, 250 ans de prison. Autrement dit, si elle est récidiviste, le nombre d'années de prison peut aller au-delà de l'espérance de vie. En France, ça n'est pas possible, ce sera au maximum la perpétuité. En Iran, une femme adultère est passible de la lapidation. En France, l'adultère, ça n'est même plus une infraction. Je vais définir tout à l'heure le mot infraction. C'est même plus une infraction. Et ça n'est même plus une cause automatique de divorce. Ça peut être une cause de divorce, mais ça n'est pas une cause automatique de divorce. Bref, vous voyez bien que la mondialisation, d'un côté, existe. On échange des biens, des services, de la culture. On a des relations diplomatiques avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Iran. Mais en revanche, du point de vue du droit et des peines, on a là des systèmes complètement différents. Alors, du coup, à partir de ce constat, qui pourrait presque me conduire à arrêter ici, je vais poser deux questions et j'essaierai de vous y répondre. D'abord, première question, est-ce qu'il y a quand même des évolutions perceptibles, des frémissements d'une mondialisation des peines? D'accord ? Donc, est-ce que les choses changent ? Et une deuxième question, un petit peu plus ardue, c'est est-ce qu'une telle évolution est souhaitable ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une mondialisation des peines ? D'accord ? Pas sûr que ce soit souhaitable, et je vais vous montrer en réalité que je pense que ça n'est pas souhaitable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je ne connais pas exactement votre degré de connaissance de ces choses, je vais, assez classiquement, comme dans toute dissertation, définir les termes du sujet. Alors, mondialisation. Mondialisation est un mot piège parce que, pour les gens de votre génération, ça fait partie des mots que je pense que vous pensez connaître. Donc, vous pensez connaître la définition, d'accord ? On vit dans un monde globalisé, internationalisé, etc. etc. Bon. Et pourtant, c'est problématique parce que je ne pense pas que cette notion soit très claire dans tous les esprits. Et on est souvent pour ou contre la mondialisation, mais sans savoir exactement ce qu'elle recouvre. D'accord ? On est alter-mondialiste, on est contre la mondialisation, bon, etc. En très gros, le sens que je retiendrai pour mon propos d'aujourd'hui, c'est que la mondialisation, c'est un phénomène qui serait caractéristique de notre modernité, qui en réalité est plus ancien, mais peu importe, et qui se caractérise par un échange croissant de biens, de services, de culture, de cuisine, etc. Donc c'est l'idée de flux interplanétaire. De finances, bien sûr, de transport, etc., d'Internet, enfin, tout ce que vous voulez. Et la mondialisation, c'est l'hypothèse de mon sujet, la mondialisation atteindrait même le droit. La mondialisation atteindrait le droit. Mais, et c'est là la première étape du raisonnement, souvent on assimile mondialisation et uniformisation. On dit, ah ben, puisque c'est mondialisé, c'est la même chose partout. Or, c'est parfois le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. certes, dans tous les McDo du monde, vous mangez un Big Mac. D'accord ? Ça, c'est un effet de la mondialisation. Mais en revanche, il y a des choses que vous mangez dans un Big Mac égyptien que vous ne mangez pas dans un Big Mac à Cergy. Dans un McDo, excusez-moi, il y a des choses que vous mangez dans un McDo. J'ai vérifié hier, à vrai dire, pas tout à fait sûr. Je suis allée sur Internet, c'est quand même la globalisation, et j'ai vérifié le menu d'un McDo égyptien. Eh bien, il y a des choses qu'on trouve au Caire et qu'on ne trouve pas à Cergy. D'accord ? Donc, mondialisation ne signifie pas forcément uniformisation, et la mondialisation peut aussi faire, bizarrement, que ressortent des particularismes, soit de pays, soit de région, etc. Les peines judiciaires, maintenant. Alors, là, c'est problématique parce qu'en 45 minutes, je dois traiter devant vous des choses qu'en première année de droit, on traite en 10 heures, 12 heures, 14 heures, etc. D'accord ? Bon. Donc, je vais essayer d'être le plus synthétique possible et malgré tout clair. Alors, une peine en droit, ça a un sens très précis, c'est une sanction que prononce un juge. Il y a un problème ? C'est une sanction que prononce un juge à l'encontre d'une personne qui s'est rendue coupable d'une infraction. D'accord ? Une infraction, c'est une transgression de la loi pénale. Voilà. Et vous le savez, pour au minimum regarder la télévision, il y a trois types d'infractions. Il y a les contraventions, c'est les moins graves. Il y a les délits et il y a les crimes. D'accord ? Donc, toute infraction à la loi pénale entre dans une de ces trois catégories, une contravention si on se garde mal, un délit, d'accord, si on vole, par exemple, un crime, si on tue. C'est très schématique, mais en gros, c'est ça. Une distinction majeure, pas simple à comprendre, mais quand même, malgré tout, je pense que vous pouvez saisir et qui vous permettra de vous y retrouver aussi dans ce qu'on raconte dans les médias. C'est ce que racontent les hommes politiques. Une distinction majeure doit être établie entre la peine qui figure dans le texte de loi, donc ce que je vais appeler maintenant, durant cet exposé, la peine théorique, la peine qui est écrite dans le code pénal. La personne qui commet un vol encourt 3 ans de prison. D'accord ? La peine prononcée par le juge, qui peut être inférieure, 3 ans c'est un maximum. D'accord ? Et la peine effectivement subie par le coupable. Vous le savez, on peut éventuellement bénéficier de remises de peine dans certaines conditions, etc. Donc la peine, c'est pas seulement la peine théorique posée dans le code pénal. Il y a la peine théorique, il y a la peine prononcée par le juge et il y a la peine effectivement subie par le coupable. Cette distinction est absolument cardinale et elle servira de fil conducteur à mon propos. J'essaierai de vous démontrer que si, à la limite, on peut concevoir une mondialisation des peines théoriques, donc si, à la limite, on peut imaginer un législateur mondial qui édicterait un code uniforme disant le vol est puni de temps, le meurtre est puni de temps, etc., eh bien, au stade de la mise en œuvre de la peine, ce ne serait pas possible. Voilà. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Hein, donc, théoriquement, c'est possible. Au stade de la mise en œuvre, ce n'est pas possible. Alors, je vais classiquement vous démontrer cette idée en 3 temps. D'abord, dans un premier temps, je vais vous démontrer que malgré la mondialisation, les peines ne peuvent pas être partout identiques. C'est simplement pas possible, d'accord ? Dans un deuxième temps, j'essaierai de vous démontrer qu'il y a des frémissements en ce sens. Il y a des tentatives d'harmonisation, mais elles ne sont pas dues à la mondialisation. Et dans un troisième temps, je me demanderai si c'est une bonne chose, si ce serait une bonne chose que les peines soient partout identiques. D'accord ? Donc, premier temps, Les peines ne sont pas identiques partout dans le monde. D'accord. Alors, la raison en est fort simple. Il y a deux raisons principales à cela. La première raison, elle tient à la structure même du droit et du droit pénal en particulier. Donc là aussi, je vous explique très brièvement des choses fondamentales et un peu complexes. Vous le savez, on dit toujours, l'État a le monopole de la violence légitime. Vous avez eu une conférence sur la violence, j'ai entendu il y a 5 minutes. Et vous le savez, dans nos sociétés, la vengeance n'est pas considérée comme une violence légitime. D'accord ? Seul l'État a le droit de punir. Et l'État punit au moyen d'un certain nombre d'instruments. Il édicte des codes, le code pénal prévoit la sanction, et il a des juges pour mettre en œuvre ces sanctions, des policiers, etc. Bien. Donc l'État a le monopole de la violence légitime. On dit que le droit pénal, le droit qui réprime, le droit qui met en prison, le droit qui condamne à des amendes, ce droit est le symbole de la souveraineté de l'État. C'est l'emblème du fait que l'État est souverain. C'est lui qui décide. À partir de ce moment-là, et donc ça c'est vraiment, si vous voulez, la base du droit pénal moderne, on dit, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. En contrepartie, en quelque sorte, à partir de la fin du XVIIIe, s'est développée l'idée que pour que cette violence légitime qu'exerce l'État soit justement juste, légitime, il fallait qu'elle obéisse à un principe. C'est le principe de... Alors, c'est pas grave, je ne vais pas l'écrire au tableau. C'est un principe absolument fondamental qui a été découvert par un jeune homme de 26 ans qui s'appelait Beccaria, B-E de C-A-R-I-A. Donc, il avait quoi, 10 ans de plus que vous, même pas, 8 ans de plus que vous. C'est un Italien qui, en 1764, a écrit un livre qui a fait le tour d'Europe. À l'époque, c'était une forme de mondialisation, qui s'appelle « Des délits et des peines ».« Des délits et des peines », vous le trouvez sur Internet extrêmement facilement. Petit opuscule d'une centaine de pages. Et dans lequel il dit, il pose le principe de la légalité des délits, c'est-à-dire des infractions et des peines. De la légalité, pas de l'égalité, de la légalité attachée. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand je suis puni pour quelque chose, d'accord, parce que j'ai volé, parce que j'ai tué, parce que, etc., je dois l'être en vertu d'un texte express qui existe avant la commission du délit et qui prévoit la définition du délit et sa sanction. D'accord ? Alors, par exemple, le jeune homme, là, qui a l'air particulièrement déconcentré, je ne connais pas votre nom, donc, imaginons que vous m'agaciez prodigieusement et que j'ai envie de porter plainte contre vous. D'accord ? Parce que, évidemment, je ne ferai pas, parce qu'il se trouve que je ne suis pas du tout quelqu'un de répressif. Imaginons que vous passiez devant un juge. Eh bien, ça ne serait pas possible que vous soyez condamné. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de texte qui dise que dans une classe de terminale, quand un conférencier vient, il faut absolument se taire. D'accord ? Si vous ne faites pas semblant de ne pas me voir, c'est vous. D'accord ? Ok. Voilà. Donc ça, c'est le principe de la légalité, qui est un principe qu'on peut qualifier de libéral. D'accord ? Tout ce qui n'est pas interdit est permis. C'est un principe qui a été conçu par Beccaria, ce jeune homme, contre l'arbitraire de l'Ancien Régime. D'accord ? Sous l'Ancien Régime, très schématiquement, c'était les juges qui punissaient, et ils punissaient un peu comme bon leur semblait. Il n'y avait pas un texte qui disait « tel comportement est puni de telle sanction ». D'accord ? Bien. Donc ça, le principe de l'égalité, si vous voulez, s'il y a une chose que vous devez retenir de cette conférence, c'est celui-là. C'est un principe rassurant pour les citoyens. C'est un principe qui va contre l'arbitraire du pouvoir. Eh bien, le principe de la légalité va avec l'idée de souveraineté. Chaque État édicte les peines qui sont attachées au comportement qu'il interdit. D'accord ? Donc, du coup, de ce strict point de vue-là, on peut se dire que la mondialisation et le droit pénal, ça va pas bien ensemble. D'accord ? En France, on ne punit pas l'adultère. En Iran, on le punit, etc. D'accord ? Donc, il n'y a pas de lien, pour l'instant, à faire entre mondialisation et droit pénal. L'autre raison pour laquelle peine et mondialisation ne font pas bon ménage, c'est une raison qui n'est plus juridique, là, mais qui est sociale et culturelle. Quand le législateur choisit de réprimer tel ou tel comportement, le vol, le meurtre, le viol, le regroupement de jeunes dans les halls d'immeubles, la sous-location, la corruption, que sais-je, d'accord ? Quand il décide de le faire, il décide de le faire pour des raisons très concrètes qui sont liées à l'état de la société qu'il régit. Est-ce qu'il y a beaucoup de vieux ? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes ? Est-ce que les gens sont pauvres ? Est-ce qu'ils sont riches ? Est-ce qu'on est en période de guerre ? Est-ce qu'on est en période de paix ? Etc. Donc il y a des tas de considérations sociales, historiques, qui justifient le choix de telle peine plutôt que de telle autre. Et ce qui est vrai du législateur, de celui qui fait les lois, qui édicte les peines, est également vrai de celui qui les applique, le juge. D'accord ? On ne va pas condamner de la même manière une personne pauvre, une personne riche, je veux dire, du point de vue de l'amende, hein, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le choix de la peine est également commandé par des choses un peu plus techniques, comme par exemple la place de la victime dans le procès. Vous regardez, encore une fois, j'imagine, des séries télévisées, et vous avez peut-être perçu que le procès américain n'est pas du tout le même que le procès français. D'accord ? Bon, tout ça intervient dans le choix de la peine. Tout ça a une influence. Le fait, par exemple, qu'il y ait un jury populaire ou un jury professionnel. Vous savez, en France, les crimes sont jugés par des jurés populaires, des jurés. D'accord ? Aux États-Unis, ce n'est pas la même chose, etc. Donc, vous voyez, tout ça commande le choix de telle ou telle peine. Je vais vous prendre un exemple qui, je pense, illustrera correctement le propos. Prenez l'exemple de l'avortement, hein, l'interruption volontaire de grossesse. Si vous regardez l'histoire de l'avortement en France, eh bien, vous pouvez presque voir l'histoire de France. Autrement dit, je vais vous le développer, autrement dit, une infraction, son histoire, la façon dont elle est réprimée ou pas réprimée, dépend de considérations sociales et historiques propres à un pays. D'accord ? Et cela donc soutient mon propos qu'une mondialisation des peines n'est pas possible. Alors l'avortement. L'avortement était le code pénal, le premier code pénal en France date de 1810. C'est un code napoléonien. D'accord ? Napoléon a édicté 4 codes, il a fabriqué 4 codes, dont le code pénal en 1810. Ce code pénal prévoyait que l'avortement était un crime. Pour des raisons diverses, les jurés, puisque c'était un crime, c'était jugé par des jurés, des gens du peuple, les jurés étaient assez indulgents vis-à-vis des auteurs d'avortement, des femmes, concrètement. En raison des effets dévastateurs de la Première Guerre mondiale sur la natalité, ce que vous savez, j'imagine, un mouvement de sévérité s'amorce. Et on a une loi de 1920, donc vous voyez, juste après la fin de la Première Guerre mondiale, une loi de 1920 qui sanctionne la propagande anticonceptionnelle et la provocation à l'avortement. Une loi de 1923, alors là je rentre dans des choses un petit peu plus subtiles, mais que je pense que vous pouvez comprendre. Une loi de 1923, très importante, j'utilise d'abord le jargon, puis je vous l'explique, correctionnalise l'avortement. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que cette loi dit que les auteurs d'avortement, médecins ou femmes, seront jugés non pas par un jury populaire, mais par des juges professionnels, par un tribunal correctionnel. C'est pour ça qu'on dit correctionnalise. Autrement dit, elle fait de l'avortement, cette loi, non pas un crime, mais un délit. D'accord ? Vous allez me dire que je me contredis. D'accord ? C'est moins sévère de faire de la loi un délit plutôt qu'un crime. Non, je ne me contredis pas, parce que ce que la loi a voulu éviter, c'est l'indulgence des jurés populaires. D'accord ? Donc ils se sont dit, on va ramener ça aux professionnels, et les professionnels jugeront sévèrement les femmes qui recourent à l'avortement. Une loi de 1939, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, aggrave encore les sanctions, et j'en reviens juste à l'exemple le plus net. En 1942, une loi est votée qui rend les auteurs d'avortement passibles de la peine de mort. D'accord ? Et c'est logique, on est en 1942, on est en pleine guerre, on est en période nataliste, hein, Pétain, comme vous le savez, et donc il faut en quelque sorte sauver la France de sauver ses enfants. D'accord ? Bon, et après la Seconde Guerre mondiale, l'avortement redevient un délit, hein. Et puis en 1975, il est dépénalisé parce que évolution des mœurs, libération de la femme, etc., etc. Donc, pour finir sur ce point, vous voyez bien que si déjà au sein d'une même société, les peines suivent des évolutions aussi dépendantes de considérations historiques ou sociales, alors a fortiori, en va-t-il si on compare les peines d'un pays à l'autre. Néanmoins, deuxième partie, on peut constater des frémissements. Alors, c'est vraiment des frémissements, je suis extrêmement prudente, hein, parce que j'ai quand même essayé de traiter le sujet, des frémissements dans le sens d'une mondialisation des peines. Alors, premier point, les frémissements que l'on perçoit, que l'on ressent, ne sont pas dus à la mondialisation. Ils sont dus à deux tendances historiques lourdes, vraiment très 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 anciennes. Donc, ils ne sont pas dus à la mondialisation. Première tendance historique lourde, dans toute société, il y a une hiérarchie des peines. Dans toute société, il y a des infractions qui sont considérées comme plus graves que d'autres. D'accord ? Et en très gros, je schématise, hein, et toutes les sociétés considèrent que un certain nombre d'infractions sont très graves. C'est le meurtre, le viol, d'accord ? Le vol. Okay. Donc il y a un noyau dur, si vous voulez, d'infractions, encore une fois, graves, quasi universelles, on pourrait dire. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Bien. Deuxième tendance historique lourde, on constate quand même, malgré tout, on constate quand même que les châtiments cruels tendent à disparaître. D'accord ? Si on regarde dans le monde entier, il y a de moins en moins de pays qui pratiquent les châtiments corporels, par exemple. Il y en a un, hein, et ça fait partie de leur arsenal législatif. D'accord ? Au Pakistan, en Malaisie, etc., on a les châtiments corporels dans les textes. Bon, mais c'est quand même de moins en moins le cas. Et puis, si on prend la peine de mort, par exemple, dont on peut dire que c'est quand même le châtiment cruel par excellence, je pourrais y revenir en discussion si vous voulez, la peine de mort n'est plus pratiquée que dans 58 États sur 192. D'accord ? Et il y a une tendance vers l'abolition. Bon. Donc ça, ce sont quand même des tendances, je dirais, universelles. L'exemple le plus net de ce que je suis en train de vous démontrer, c'est la Cour pénale internationale. Alors j'imagine que ici ou là, dans les médias, dans les cours, vous avez entendu parler de cette fameuse Cour pénale internationale qui siège à La Haye, en Hollande. Hein. Elle a été instituée par une convention de 2002, enfin 1998, mais qui est entrée en vigueur en 2002. Très schématiquement, cette cour juge les auteurs des crimes les plus graves, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide. Et bien de manière significative, cette cour ne peut jamais prononcer la peine de mort. La peine de mort n'a pas été prévue dans l'arsenal des peines que cette cour peut infliger, d'accord ? Alors même qu'elle juge les crimes les plus graves. Donc vous voyez, il y a là un paradoxe, mais qui s'explique par ce que je vous dis. La tendance est quand même à l'adoucissement. Un phénomène plus récent, pourrait accréditer, en tout cas, l'idée d'une mondialisation de la peste. Ce phénomène est le suivant. Il s'agit de la réflexion, enfin de la signification qu'on donne au sens de la peine. Partout dans le monde, on se pose la question de savoir quel sens a la peine. Quel sens ça a de punir les gens ? Alors, c'est pas une réflexion tout à fait nouvelle, d'accord ? Mais il y a deux phénomènes très caractéristiques de notre monde contemporain et qui sont partagés par d'autres pays que la France et qui sont les suivants. Premier phénomène, aujourd'hui, à côté des peines stricto sensu, hein, condamnation à un emprisonnement ou à une amende, on développe ce que l'on appelle les mesures de sûreté. Les mesures de sûreté. Alors, derrière ce jargon technique se loge une réalité très simple. Une mesure de sûreté, c'est une mesure qui tend à prévenir un comportement transgressif. Par exemple, un toxicomane, au lieu de le punir en le mettant en prison, d'accord, eh bien, on lui fait faire une cure de désintoxication. Pareil pour un alcoolique. Vous avez sans doute entendu parler des travaux d'intérêt général. D'accord ? Quelqu'un qui a commis une infraction routière grave, au lieu de le mettre en prison, ça servirait à peu près à rien, eh bien, on va le condamner à être dans un hôpital au service des grands blessés de la route. D'accord ? Par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle une mesure de sûreté qui, théoriquement, en tout cas c'est son but, a une finalité préventive et non pas répressive. Bon, eh bien, on peut dire que dans beaucoup de sociétés maintenant, très clairement dans les pays du Nord, au Canada, aux États-Unis, etc., se développe cette idée de la fonction préventive de la sanction, d'accord, et pas seulement répressive. Un autre phénomène récent sur le sens de la peine, c'est le développement de ce que l'on appelle, là aussi c'est le jargon, mais il est simple à comprendre, la justice restaurative. La justice restaurative. Qu'est-ce que la justice restaurative ? Normalement, on dit que la justice pénale a une fonction rétributive. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On veut dire que sa fonction, c'est de punir un coupable. D'accord ? La justice, traditionnellement, la justice pénale, hein, eh bien, elle voit que quelqu'un a commis une infraction, ce faisant, il a transgressé les lois de la société, elle le punit. Bien. La justice restaurative a un autre but, c'est l'idée de restaurer, c'est pour ça que ça s'appelle restauratif, restaurer du lien entre la victime et le coupable. Remettre la victime dans un état aussi proche que celui qui était le sien avant l'infraction, qui a complètement bouleversé sa vie, et restaurer une forme de lien. D'accord ? La justice restaurative, c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui. Il y a la médiation, par exemple. Ça. Il y a des tas de mécanismes qui l'illustrent. Et elle nous vient du Canada. Enfin, c'est pas les États-Unis. Elle est très présente dans les pays européens, mais pas seulement dans les pays européens, c'est pour ça que je vous en parle, puisqu'on est censé parler de mondialisation. Cette idée de justice restaurative est également à la base d'un phénomène très important dans toutes les sociétés qui ont été confrontées à ce type de situation. C'est ce qu'on appelle, par exemple, vous avez dû en entendre parler, les commissions vérité et réconciliation. Je m'explique. Dans un certain nombre de pays qui ont été touchés soit par des guerres très meurtrières, soit par des conflits type apartheid en Afrique du Sud, d'accord, ou par des dictatures extrêmement répressives comme au Maroc, sous Hassan II. L'idée, c'est qu'une fois sortis de la crise, au lieu de juger les coupables, on les présente devant des commissions qui portent divers noms. Mais un des noms, c'est notamment la commission sud-africaine, c'était la commission Vérité et Réconciliation. Quelle est l'idée? Ce n'est pas de sanctionner les coupables, c'est de réconcilier une société avec elle-même. D'accord? Donc typiquement, on ne prononcera pas de peine. Les noms des coupables ne seront pas forcément dévoilés. Il n'y a pas forcément de juge au sens propre, etc. C'est un exemple, c'est une illustration de cette idée de justice restaurative, justice réparatrice et non pas justice sanctionnatrice. Eh bien, cela, pour moi, c'est l'exemple peut-être le plus net d'une forme de mondialisation du sens de la peine, hein, du sens nouveau qu'on donne à la peine. Alors, dernier point, est-ce qu'on doit tendre vers des peines identiques ? Est-ce que c'est un mouvement souhaitable ? Jusqu'à présent, je vous ai démontré que c'était un mouvement qui n'était pas très net, d'accord ? En dépit de quelques frémissements. Et donc maintenant, je vais un peu plus loin dans la réflexion et je me dis, est-ce que c'est un mouvement souhaitable ? Eh bien, mon hypothèse, c'est non, d'accord ? Enfin, ma réponse, plus exactement, c'est non, sauf que je ne suis pas sûre de ma réponse, hein. Donc, je vous la soumets. Pour moi, établir des peines identiques dans tous les systèmes judiciaires du monde, ce serait méconnaître ce qu'est une peine. Une peine, et je reviens au début de mon analyse en espérant que ce soit plus clair, une peine, c'est une sanction prononcée par un juge, donc par un être humain, qui a suivi des études, qui a une psychologie particulière, qui vit dans une société déterminée, d'accord ? C'est un homme. D'ailleurs, c'est plusieurs hommes, parce que plus souvent, la justice est rendue de manière collégiale, justement, hein, pour éviter les effets de la psychologie marquée de tel juge. Bon, bref. Donc, la justice, elle est rendue par des hommes, et elle est rendue à l'endroit d'autres hommes. Quand je dis hommes, c'est êtres humains, bien sûr, hommes et femmes, d'accord ? On ne juge pas seulement un délinquant, on ne juge pas seulement quelqu'un qui a transgressé la loi pénale, on juge une personne. Un procès pénal commence d'abord par une enquête de personnalité. On veut savoir qui est cette personne, quelle est son histoire, quels sont ses moyens financiers, quelles sont ses perspectives d'insertion, etc. etc. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, s'instaure un principe tout aussi important que le principe de la légalité, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le principe de l'individualisation de la peine. Il est inscrit dans le code pénal. La peine doit être individualisée. C'est pour cela que la loi pénale ne fixe que des maxima. Si vous lisez un code pénal, vous verrez, le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de tant d'amende. C'est un maximum. Le juge peut, dans ce maximum, enfin, en dessous de ce maximum, aller aussi bas qu'il le souhaite. D'accord ? Et cela en fonction de ce principe d'individualisation. Ça dépend du casier judiciaire, de mille choses. D'accord ? Ainsi. Et c'est ce que je vous disais au début de ma présentation. Autant, à la limite, on pourrait faire un peu de droit fiction, si vous voulez, et imaginer un législateur mondial qui aurait été élu par les 6 milliards d'êtres humains que nous sommes, enfin peut-être pas les enfants, mais bon, d'accord, et ce législateur aurait la légitimité pour écrire un code pénal mondial. Pourquoi pas ? On peut rêver, hein. Il y a 20 ans, qui aurait cru qu'il y aurait une Cour pénale internationale pour les crimes les plus graves ? Pourtant, il y a une Cour pénale internationale. Donc, on peut rêver. Mais, en revanche, ce qui ne serait pas possible, selon moi, c'est que ce code hypothétique, ce code fictif, soit mis en œuvre de manière identique par les juges des différentes sociétés. D'accord ? Donc c'est pour ça que je vous disais, un juge anglais jugera toujours comme un juge anglais, un juge français comme un juge français, etc. Et même si les États, un jour, n'ont plus la structure qu'on a, il y aura des cultures, il y aura des sociétés, il y aura des histoires, etc. Pourquoi ? Parce que le droit, et ça c'est une idée fondamentale, si vous voulez un jour faire du droit, le droit c'est un cas. On dit souvent, celui-là c'est vraiment un cas, d'accord ? Eh bien, le droit, c'est un cas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le droit, ça n'est pas... Souvent, on caricature le droit en pensant que c'est des règles de droit. Vous savez, on dit toujours, de toute façon, pour être un bon avocat, il suffit d'apprendre le code par cœur. D'accord ? Donc, on a des codes, on les apprend par cœur. Pas du tout. Alors, pas du tout. Pour être un bon avocat, il faut savoir, en gros, ce qu'il y a dans les codes, bien sûr, il faut savoir où chercher, mais il faut surtout appliquer la règle de droit au cas singulier qui vous est présenté. D'accord ? Mademoiselle du premier rang ou monsieur du premier rang, si vous allez devant un juge, vous ne serez, pour les mêmes faits apparemment, vous ne serez pas jugé de la même façon. Pas parce que le juge est arbitraire, c'est pas ça que je suis en train de dire. D'accord ? C'est pas ça. Mais c'est simplement parce que vos deux histoires ne seront jamais tout à fait les mêmes. Les circonstances ne seront jamais les mêmes. Le droit, c'est l'application d'une règle de droit qui figure dans un code à un cas singulier. C'est dans cette articulation qu'on trouve toute la richesse du droit. Plus fondamentalement encore, si on avait... Là, je fais ce sujet, c'est ça qui m'a plu dans ce sujet, c'est qu'il m'a amené à faire du droit fiction. Comme la science-fiction, si vous voulez. Si on avait un législateur unique qui aurait fait un code mondial, d'accord ? Et si on avait des juges qui soient des robots ? On peut imaginer, hein ? À une époque, ça s'était fait pour les contraventions en France. Ce n'était pas des robots, c'était des ordinateurs. On entrait dans l'ordinateur le fait, et l'ordinateur sortait l'amende, d'accord ? Et puis on s'est aperçu que... C'était mieux que ce soit quand même un être humain qui le fasse plutôt qu'un ordinateur. Bien. Mais imaginons, les sciences ne cesseront de se perfectionner et on peut imaginer des ordinateurs très performants qui produisent des jugements. Et bien dans ce cas-là, il n'y aura plus de justice. Le droit serait mort. Si partout les mêmes peines étaient identiques pour tous les comportements, eh bien, il n'y aurait plus de droit. Il n'y aurait plus de justice. Pourquoi ? Parce que la justice, ou le droit, se construit par des adaptations permanentes, des ajustements permanents entre ce qui est... C'est pour le feu, c'est ça ? Ah, d'accord. Ça tombe bien parce que j'avais fini dans 2 minutes, hein, c'est parfait. Le droit se construit dans cette adaptation permanente entre ce qui est et ce qui devrait être. D'accord ? Entre la règle de droit telle qu'elle est posée et la règle de droit telle qu'on aimerait qu'elle existe. Okay ? Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait de la divergence, de la différence... de l'absence d'harmonisation, etc., etc., d'accord ? Parce que c'est ce qui permet cette comparaison et ce décalage, et c'est ce qui permet aussi les progrès de la justice. Alors, pour conclure vraiment, tout ce que je dis là, j'ai tenté de répondre à la question qui m'avait été posée, en amont des peines, il y a, pour pouvoir condamner des gens, il faut un système judiciaire qui soit performant. D'accord ? Il faut des juges bien formés, il faut des autorités indépendantes, des autorités qui poursuivent et des autorités qui jugent. Vous savez, c'est le fameux débat, procureur, juge, etc. Il faut des autorités qui poursuivent et des autorités qui jugent, qui soient indépendantes les unes des autres. Il faut des lieux où on rende la justice qui soient accessibles. Bon, hein, il faut des moyens, bon, tout ça, tout ça. tout ce que j'ai dit sur les peines n'empêche pas qu'il puisse y avoir entre les États une coopération ou une harmonisation justement des systèmes judiciaires. Bon, l'exemple le plus net, c'est le mandat d'arrêt européen. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un mécanisme qui a été mis en place en 2002 et qui permet une coopération entre les États européens pour aller saisir dans un territoire donné une personne, par exemple un Allemand qui aurait commis une infraction et qui se trouverait en France. D'accord ? Donc là, il y a une coopération entre les institutions pour mettre en œuvre la justice. De la même façon, la mondialisation, si vous voulez, a ceci de bon qu'aujourd'hui, on a des magistrats japonais qui viennent en France pour apprendre le droit français et vice-versa. Il y a des échanges. Donc je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut que chaque système national reste clos sur lui-même sans qu'il puisse apprendre des autres. Le droit comparé, c'est quelque chose d'absolument fantastique et que si vous allez sur les bancs de la faculté de droit, vous verrez que c'est une matière passionnante, d'accord ? Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que le sens de la peine et même le sens de la sanction et le sens du droit, c'est de vivre dans un, c'est aussi de supposer un monde non homogène. Voilà. Je vous remercie.